Je crois que là, les fidèles viennent de prendre un gros coup dans la gueule avec tout ce qui est arrivé sur les violences sexuelles et que du coup, ils dessillent leurs yeux et voient bien que, effectivement, les prêtres qu'ils imaginaient peut-être comme asexuels sont en fait bien sexualisés et donc il faut faire quelque chose de cette sexualité, quoi. Et que la moins bonne manière de le faire, c'est de, effectivement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de reléguer cette sexualité dans un placard caché où les gens vivent de manière clivée.
Vous, vous arrivez à la fin de votre enquête, vous allez présenter votre thèse en juin, si je me trompe. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ou est-ce qu'au final, vous n'avez absolument pas été surpris et tout était un secret de polichinelle?
Ben, on est toujours surpris, sinon c'est un peu inquiétant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que mon objet a évolué au fur et à mesure de mon enquête. C'est-à-dire que, y compris moi-même, je participais à l'élaboration d'une évolution de mon enquête parce que les gens me voyant enquêter là-dessus, réfléchissaient à leur manière d'être, etc. Ce qui m'a plus surpris, c'est peut-être une forme de réaction politique là-dessus, dont j'ai pas parlé ce soir, mais qui consiste à promouvoir par exemple des camps ou des stages entre hommes pour parler de masculinité, et qui me semble être une politique de la masculinité, comme je l'appelle dans ma thèse, assez conservatrice et qui va pas dans le bon sens. et qui essaye de. Enfin, qui ne parle pas d'homosexualité, qui parle pas de tout ça, mais qui cache tout ça. Mais peut-être que tout ça va moins bien marcher maintenant qu'effectivement un certain nombre de fidèles se révoltent ou grondent et demandent des comptes à l'institution.
Comment est-ce que l'Église gère la sexualité de ses représentants? Est-ce que c'est évoqué dans le plus grand secret ou est-ce qu'au contraire on les pousse dans le placard?
Bah, c'est sûr que la question de la sexualité, elle est atypique au sein du clergé, puisque le clergé est appelé à être célibataire et abstinent sexuellement. C'est une des seules institutions qui exige de ses membres ça, et qui exige aussi, qui se base sur des critères de genre, puisqu'on exclut les femmes, et depuis peu, on exclut, au moins en théorie, les personnes homosexuelles ou promouvant la culture homosexuelle. My lover's got humor. She's the giggle at the funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them saying. My church offers no absolutes. Tells me worship in the bathroom. The holy heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen.
L'Église, c'est cette formidable institution qui a 2000 ans d'histoire, où tout bouge en 2000 ans. Rien, enfin, ça n'arrête pas de bouger. Et en même temps, on n'arrête pas de construire sa propre image comme une image de stabilité. Ça se comprend, puisque l'Église a intérêt à être stable et montrer qu'elle est toujours la même, parce qu'elle transporte un message qui vient d'ailleurs, qui est de toute éternité, etc. Donc, en fait, elle est tout le temps en train de reconstruire des justifications pour justifier les dispositifs, dont le dispositif de la continence chez les prêtres. Donc, en fait, c'est vraiment avec l'Église carolingienne et que s'installe progressivement l'idée qu'on ne peut pas être impur quand on se saisit de l'hostie consacrée et du vin consacré qui représente le corps et le sang du Christ à l'autel. Et donc, progressivement, on va demander aux prêtres de ne pas avoir de relations sexuelles avec leurs femmes avant le dimanche. Puis progressivement, on va s'imposer la règle de finalement, en fait, on vous demande d'être célibataire.
Au Vatican, ce prêtre polonais a fait sensation en annonçant publiquement ce samedi qu'il était homosexuel. Un coming out qui fait d'autant plus de vagues que Mgr Christophe Olaf Karamsa, c'est son nom, est théologien, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et s'il fallait encore en rajouter, son initiative intervient à la veille de l'ouverture au Vatican d'un synode sur la famille.
Donc voilà, donc ça pose beaucoup de contraintes. Et ses représentants sont sous pression pour performer cette attente assez difficile à tenir. Et donc, oui, ça les pousse quand même pas mal au placard, qu'ils soient hétéros ou homosexuels, s'ils ne sont pas complètement conformes, quoi.
Et ça, c'est pas que dans l'Église, en fait. Partout dans la société, le masculin jusqu'à peu était cette espèce d'universel neutre dont on n'en parlait pas puisque c'était évident. Et aujourd'hui, on voit poindre, notamment dans les textes de François, quelques éléments sur, en fait, c'est quoi être un homme en tant qu'homme, et non pas un homme au sens où c'est évident, etc. Et donc, il n'y a pas d'encyclique sur la femme, d'ailleurs, pas les femmes, mais il n'y en a pas sur les hommes. Et ça, c'est typique des privilèges des dominants, en fait. Les dominants n'ont jamais de discours sur eux-mêmes. Ils sont là, dans l'évidence de leur être et de leur dominance.
Est-ce qu'il y a quand même un discours militant qui se dessine ? Est-ce qu'il y a des personnes qui militent justement pour revendiquer l'homosexualité au sein de l'Église ?
Ah ben il y en a, oui, bien sûr. Après, il y en a aussi qui, par essoufflement, parce que voyant que les choses n'avançaient pas, ont lâché l'affaire. Il y en a qui militent à couvert et de manière très prudente au sein de l'institution. Mais ils prennent aussi des risques pour eux-mêmes, puisqu'ils peuvent être virés. Donc voilà. Donc y en a beaucoup, mais effectivement, on a le sentiment que l'institution est tellement forte et tellement rigide que les militants s'épuisent.
L'Église a largement contribué à construire un regard des fidèles ou des gens sur le prêtre qui est désexualisant. Donc on ne voit plus le prêtre comme un être sexué, ou alors on le construit vraiment à l'opposition comme un super prédateur. Mais en tout cas, pour le catholique moyen, le prêtre n'est pas vu comme un être disponible sexuellement et intéressé sexuellement. Et donc ça a une vertu. Ça permet, notamment dans une société où le mariage est obligatoire, pour des hommes pas intéressés par le mariage, pas intéressés par la sexualité hétérosexuelle, on s'entend, ou conscients qui veulent y échapper, d'avoir une autre façon légitime d'être homme. Puisque être prêtre, c'est légitime, c'est jusqu'à il y a peu être un notable dans la ville. Et donc voilà, et on n'a pas cette obligation au mariage hétérosexuel, s'entend. D'où, à mon avis aussi, la très forte lutte de l'Église contre le mariage homosexuel, parce que si les homosexuels peuvent se marier, ils seront peut-être plus très intéressés pour devenir prêtres. Or, on manque de prêtres. Qu'est-ce qu'on demande aux prêtres ? Abstenez-vous. Et qu'est-ce qu'on demande aux homosexuels ? Abstenez-vous. Donc le mieux, finalement, si vous êtes né dans une culture catholique et que vous croyez et que vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel, le mieux, c'est d'être prêtre. Vous avez les bénéfices de la reconnaissance, du prestige, d'un statut social, et vous n'êtes pas obligé de vous taper tous les affres de l'hétérosexualité contrainte dans un couple où il faut faire semblant, etc. etc. Donc vous voyez, c'est construit, enfin, c'est quasiment les mêmes exigences pour un homosexuel et pour un prêtre. Et quand on dit ça, évidemment, ça énerve. Parce qu'il y a un tabou derrière.
Pourtant, au sein de l'Église, on a vu, enfin vous le disiez pendant la conférence, il y a des représentants qui reprennent des termes qui appartiennent, on va dire, à la sous-culture gay. Est-ce qu'il y a une sous-culture gay, justement, au sein de l'Église ?
Oui, il y a une sous-culture gay ou des sous-cultures gays au sein de l'Église depuis assez longtemps. Et évidemment, il n'y a pas de clôture ou de frontière entre l'Église et le monde extérieur. Les gens naviguent, circulent. Certains prêtres ont pu, dans leur jeunesse aussi, fréquenter les mondes culturels gays. Donc forcément, il y a de la circulation.
Oui, en fait, c'est plus précis que ça. C'est qu'il y a une sorte de concentration. D'où l'augmentation de la proportion des prêtres homosexuels. Il y a d'abord un déficit de recrutement qui n'est pas lié à la sexualité, mais lié à l'ascension sociale. Jusque dans les années 60, être prêtre, c'est une forme de notabilité, et que pour tout un tas de garçons de familles, notamment rurales, être prêtre, c'est envié comme position. C'est d'abord une occasion de faire des études, alors qu'à l'époque, on ne fait pas des études en collège gratuite, et c'est l'occasion d'une notabilité. Donc dès qu'un enfant est repéré, il rentre au petit séminaire, donc il rentre à 12 ans souvent, donc les choses se font de manière assez précoce, et voilà. Donc tout ça vole en éclats à partir du moment où le petit séminaire devient obsolète. D'abord parce que se met en place les collèges, et ensuite parce que le petit séminaire est aussi décrié, parce que ça apparaît comme une institution à la fois obsolète et un peu totale, comme dirait Goffman, c'est-à-dire que mettre des gamins à 12 ans avec un préchoix vocationnel, c'est un peu rude, voilà. Et donc, cet arrêt des petits séminaires, c'est aussi le déficit de tout un tas de personnes qui venaient de milieux plutôt populaires, rural, qui rentraient dans la prêtrise. Et puis, il y a deuxième effet, donc ça, c'est par le bas, déficit de vocation par ascension sociale, y compris chez les hétérosexuels. Deuxième effet, c'est que dans les années 70, c'est la crise post-conciliaire dans l'Église catholique, ça part dans tous les sens, il y a des prêtres qui revendiquent le mariage. Finalement, les évêques de France, assez courageux à l'époque, amènent la question au Vatican. La question est tranchée, il n'y aura pas de prêtres mariés. Et donc, il y a tout un tas de prêtres qui, aussi pour des raisons idéologiques, parce qu'ils voudraient que l'Église soit plus militante, etc., quittent. Et globalement, ceux qui quittent, on a une enquête de Julien Potel là-dessus, se marient. Ils ne quittent pas forcément pour se marier, mais en tout cas, ils se marient tous. Et ils se marient avec une femme. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas forcément envie de se marier ou qui ont toutes les raisons conservatrices de rester. Et donc, ces deux effets, absence de recrutement pour ascension sociale sans discrimination entre les sexes, plus sortie d'un paquet d'hétérosexuels, fait qu'il y a concentration. Troisième effet aussi de concentration, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement des prêtres se resserre dans une bourgeoisie conservatrice où, effectivement, si on se perçoit plus ou moins consciemment comme homosexuel, l'horizon des possibles n'est pas très large. On ne va pas ramener un copain et se marier à la maison et se marier avec lui. Et donc, vu que le modèle du prêtre est valorisé, etc., comme un modèle noble de sacrifice, etc., on va vers là. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une surconcentration homosexuelle aujourd'hui et qui fait que ça déborde aussi, au sens où le placard déborde, s'ouvre de l'intérieur, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont pu fréquenter, être socialisés en partie aussi dans des milieux gays. Et du coup, à intérioriser les codes de cette culture-là. Et donc, ça se voit. C'est-à-dire que ça ne se parle pas forcément en parole, mais ça se parle parfois aussi par tout un tas de codes culturels, que ce soit la posture, que ce soit le choix de vêtements, que ce soit des signes, etc. Et ça, pour l'Église, c'est gênant. Si ça se voit, c'est gênant.
Oui, en fait, tout ce truc de l'Église, c'est quasiment faites ce que vous voulez, mais que ça ne se voit pas, quoi. Que ça ne se sache pas, que ça ne se voit pas.
Notamment, oui.
Et donc, en 2005, donc c'est Benoît XVI, l'Église interdit à ceux qui pratiquent l'homosexualité ou qui présentent des tendances homosexuelles, je cite, hein, ou qui soutiennent la prétendue culture homosexuelle, de devenir prêtre.
Oui, alors ce texte est assez intéressant parce que d'abord, tout au long des siècles, l'homosexualité des prêtres a permis un truc assez bon pour l'Église, c'est que s'il y avait déviance sexuelle, pratique sexuelle, il n'y avait pas d'enfant comme preuve publique de cette déviance sexuelle. Si vous couchez avec une femme, il y a toujours un risque d'enfant. On ne maîtrise pas vraiment la contraception. Donc pour l'Église, c'était bien pratique. Paradoxe, c'est que ce texte veut dire, attention, à partir de maintenant, on n'ordonnera plus des personnes, alors avec des tendances profondes homosexuelles, parce qu'on distingue dans l'Église les tendances pas très profondes, ça peut arriver, voilà, c'est comme ça, etc., les tendances profondes. Et ceux qui défendent la prétendue culture homosexuelle. C'est intéressant parce qu'on peut être hétérosexuel et défendre la culture, l'existence et la légitimité d'une culture homosexuelle. Donc on sent bien que l'enjeu, c'est attention, il ne faut pas donner à l'homosexualité une place légitime à côté de l'hétérosexualité.
Est-ce que l'Église est préparée pour le monde actuel ou est-ce qu'elle va être obligée d'évoluer, s'adapter ou mourir? Que va-t-elle faire?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, quelques mois encore, j'aurais pas dit que ça allait bouger. Et là, avec tout ce qui implose au sein de l'institution, il y a quand même des chances que ça bouge, quoi. Quand même, qu'un certain nombre de fidèles, par exemple, demandent des comptes à l'institution. Alors, ce qui est triste, c'est qu'il a fallu attendre quand même les abus sexuels, les violences sexuelles faites sur les mineurs et sur les femmes pour que les fidèles réalisent qu'il y a quand même un souci au sein de cette institution sur les questions sexuelles, quoi. Ben, elle aurait pu, je pense, elle aurait pu suivre effectivement l'évolution de la grande mutation culturelle qui est celle des années 70-80 et en même temps que les États abandonner le discours homophobe officiel, à mieux accueillir, mais elle n'a pas réussi à le faire. C'est plutôt l'inverse qui a marché. Mais voilà, je ne vois pas comment elle peut s'en sortir, en tout cas dans la modernité ou la surmodernité ou sans progressivement intégrer la démocratie sexuelle, c'est-à-dire cette idée que les individus, collectivement et individuellement, peuvent choisir leur sexualité de manière légitime.
C'est que l'Église, qui est très homophobe en public, est en fait animée par des cardinaux et des évêques très souvent homosexuels eux-mêmes.
Moi, ça me pose beaucoup de questions parce que, en effet, il faut de la prévention, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas.
Cette espèce d'autoprotection de l'Église par l'Église, nous avons quelqu'un pour nous protéger. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est notre maître. C'est lui qui protégera son Église, son épouse chérie.
D'être prêtre, d'être dans le célibat, donner aux autres. Et voilà, c'était pour moi un conflit interne, mais aussi un conflit de foi. Je me suis dit clairement, voilà, si Dieu m'appelle à être prêtre, il m'appelle avec tout ce que je suis, et y compris avec cette identité homosexuelle que je découvrais encore.